Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé » proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective, femme des territoires, pour créer son entreprise, bouge ta boîte pour du business avec du sens et bouge ton groupe pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois les deux entrepreneurs lauréates du Bold Award décerné par Veuve Clicquot, prix qui existe depuis 50 ans, deux femmes que rien n'arrête et qui ont su suivre leur intuition avec une détermination hors norme. Bonjour Elena Poinçon.
Bonjour Marie, bonjour Amélia.
Vous étiez agent secret et vous êtes depuis 2010 la fondatrice et CEO de Tetris, leader mondial en matière de lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. L'éditeur de logiciels Tetris a la spécificité de neutraliser de manière automatique les cyberattaques et aujourd'hui, c'est 230 salariés et une présence dans plus de 100 pays. Vous avez signé également la plus grande levée de fonds au monde dans la cybersécurité, 20 millions d'euros. Bonjour Amélia Matar.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Colori, qui propose des activités d'initiation à l'informatique et au codage sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans, des ateliers d'inspiration Montessori pour apprendre à programmer un robot, à découvrir le système binaire ou encore à travailler sur les algorithmes. 6000 enfants ont déjà bénéficié de vos ateliers et Colori, c'est 6 salariés et une deuxième levée de fonds en cours. Ensemble, Amélia Matar, Elena Poincé, j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de croire en votre capacité à faire autrement et à aller le plus loin possible. Elena, on commence avec vous. Vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où nous sommes en 2009, cela fait alors 26 ans que vous travaillez dans l'armée. Après un bac scientifique, vous avez d'abord été militaire dans l'armée de terre pendant 12 ans. Vous faites d'ailleurs partie des premières promotions ouvertes aux femmes. Puis vous êtes devenu agent secret. Vous avez donc travaillé 14 ans à la DGSE, le service de renseignement français. Et un jour, on vous appelle pour une nouvelle mission. Et c'était à la fois un coup de foudre professionnel et amoureux.
Oui, tout à fait. J'étais dans mon bureau et on m'appelle, hein, le chef de mission, pour éventuellement partir en mission. Et donc, je prends ma voiture d'Orléans pour aller jusqu'à Paris, jusqu'à l'état-major du service action de la DGSE. Et puis, donc, je rencontre mon chef de mission lors du déjeuner. Et pour commencer à discuter, et puis les choses se sont faites bizarrement. Je rencontre certaines personnes et peut-être la personne avec qui j'allais faire la mission. Et puis là, on s'est rencontrés, on s'est dit bonjour et puis on savait que là, d'un seul coup, tout allait basculer.
Laurent Houdot.
Laurent Houdot, qui est cofondateur avec moi à Tetris depuis depuis 2010.
Et qui est un hacker éthique, donc vous êtes partis tous les deux en mission, c'est ça ?
Voilà, et donc quelques semaines après, puisqu'une mission, bien sûr, ça se prépare, hein, ce sont des missions clandestines, et donc nous sommes partis en mission, et puis à l'issue de cette mission, nous avons décidé de prendre un autre chemin, de quitter la boîte, comme on dit entre nous, la DGSE, et puis de créer notre propre entreprise. Voilà, donc c'est effectivement un coup de foudre amoureux et aussi professionnel, puisque voilà, tout semblait parfait.
Donc la mission s'est tellement bien passée, on n'en saura jamais plus, mais c'est
exactement
tellement bien passé que votre rencontre a effectivement eu lieu en mars 2009, et en juillet, vous quittez tout et vous créez Tetris.
Oui, c'est exactement ça. Avec Laurent, on se posait la question, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on reste au service ? Est-ce qu'on reste pas ? Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble notre vie professionnelle ? C'est compliqué, partir en mission tout seul, partir en mission avec quelqu'un d'autre, et c'est pas possible, on donne pas de nouvelles. C'est vraiment une vie très particulière, hein, d'être agent au service action de la DGSE.
Ça veut dire que votre mari n'a pas de nouvelles de vous, il sait pas où vous êtes pendant des semaines, il sait pas quand vous revenez, vos enfants non plus, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a décidé qu'on n'avait pas envie de vivre cette vie-là. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, et si on créait notre société ? Et il m'a dit, j'en ai toujours rêvé. Et donc, d'un seul coup, tout a basculé.
Le deuxième jour où votre vie bascule, c'est 3 ans plus tard, en 2012. Vous aidez désormais les entreprises à améliorer leur cybersécurité en simulant des intrusions dans leur système informatique. Vous avez même été les 4e au monde à pirater BlackBerry à l'époque. Et le deuxième jour où, nous sommes un vendredi soir et vous en avez plus cassé, Elena.
Oui, c'est exactement ça. On rentrait d'une mission avec un client. Et moi, le vendredi soir, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on change. C'est pas vivable. C'est
pourquoi
même plus intéressant parce que, en fait, le piratage pendant ces 2 dernières années était, en fait, on n'avait aucun échec. Et donc, ça montrait que, quelque part, la cybersécurité qui était implémentée dans les différentes entreprises, eh bien, n'allait pas.
Donc, vous alliez dans les entreprises, vous essayez de pirater leur système pour leur montrer que c'était pas fiable et...
Voilà, c'est ça,
et en fait, ça ne vous plaisait plus.
Voilà, c'est la commande. Mais surtout, c'est qu'on bypassait toutes les solutions de cybersécurité. Donc, en fait, au final, on ne servait à rien. Simplement pour dire, vous êtes piratable, vous êtes piratable, vous êtes piratable, monsieur machin, vous êtes piratable, madame bidule. Ça n'a pas de sens. Et moi, je suis dans la construction et dans le service. Et du coup, j'ai dit à Laurent, écoute, il faut qu'on crée une solution. Et voilà, on est parti d'une feuille blanche un samedi matin. C'est parti d'une engueulade aussi. Et d'un seul coup, est sorti...
D'une engueulade, c'est-à-dire, vous lui avez dit, je n'en peux plus.
Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas possible de continuer à vivre comme ça. Il n'y avait aucun intérêt. Et puis, voilà. Donc, on est parti d'une feuille blanche et on a commencé à travailler. Et puis, à partir de 2013, on a commencé à vendre. Et une nouvelle aventure est arrivée.
Alors, commencer à travailler, vous le dites ça, ça a l'air tout facile. Mais vous avez inventé un logiciel unique au monde, c'est ça ? Qui permet justement de prévenir toutes ces cyberattaques.
Exactement. Donc, 2013, on commence à vendre. Et puis après, donc, on a fait une première solution et puis on a fait une deuxième. Et ce qui nous a permis, justement, on était extrêmement innovants en 2013 puisqu'on a inventé le Endpoint Detection Response pour les initiés. Ça veut dire que c'est un agent qui se place dans les ordinateurs ou les serveurs et qui lutte en permanence pour neutraliser de façon automatique et sans action humaine tout ce qui est ransomware, tout ce qui est backdoor, justement, et pour lutter contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Mais en 2013, quand on parlait de ransomware, personne...
Non, mais toujours moi, je ne connais pas.
Donc, les rançons logicielles, donc, ce qui permet de chiffrer, de voler, de chiffrer les entreprises. Et quand on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec un antivirus simplement, en moins d'une heure, on peut s'infiltrer à l'intérieur de votre réseau, on peut voler vos données, on peut vous chiffrer tout votre parc informatique, et puis surtout, vous pouvez mourir numériquement en tant que société. Donc, c'est extrêmement grave. Et en 2013, on était extrêmement innovants. Vous pouvez même pas vous imaginer, parce qu'on parlait en 2014 à nos clients, on disait on a une solution, on sait que les ransomware vont arriver, puisque quand on fait une solution de cyberdéfense, et quand même avec Laurent Houdot qui est hacker éthique, mais on a la connaissance de tout ce qui est le dark web et tout ce qui se passe en dessous, quoi. On disait ça va arriver, ça va arriver. Et donc nous, on a continué notre innovation pour avoir un système qui soit automatique, puisqu'on a conçu ça de façon extrêmement intelligente. intelligent parce que déjà au début on n'était pas nombreux, on était 3, 4, 5 et donc on savait qu'il allait aussi avoir un manque de personnel d'ingénieurs informatiques et donc on a hyper automatisé tout ça. On s'est dit il faut que ce soit, voilà, on a construit ça comme l'industrie 4.0, c'est-à-dire très peu d'humains qui pilotent ça et puis voilà. Et maintenant effectivement nous sommes 230 mais il nous manque encore beaucoup de monde pour arriver à nos objectifs.
Et personne n'était vraiment très intéressé au démarrage jusqu'à ce que les Américains s'y mettent aussi, c'est ça, ils vous copient ?
Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, nos clients disaient ben non, ça ne nous intéresse pas. On a même postulé une fois pour un prix de l'innovation avec un grand forum et tout ça. On nous a répondu, vous n'êtes pas innovant. C'était en 2017. Donc voilà, la France, c'est un petit peu ça et c'est bien dommage. Et en 2018, les Américains israéliens sont arrivés sur le territoire pour vendre la même solution que la nôtre. Et puis, on a commencé à faire une croissance à deux chiffres. Et puis, on s'est dit maintenant, il faut aller encore plus loin, d'où la série A.
Donc la série A, la levée de fonds de 20 millions et vous êtes aujourd'hui leader mondial dans votre domaine.
Exactement, parce que contrairement aux Américains, nous, ce que nous faisons, c'est de la lutte automatique et sans action humaine. Et le sans action humaine, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a d'extrêmement important. Nous, chez chacun de nos clients, on appelle ça des kills, mais c'est de la neutralisation automatique et sans action humaine, 5 menaces inconnues par jour, par client, et 10 000 menaces inconnues qui sont neutralisées par le système automatiquement. Mais c'est énorme.
Et 300 000 nouveaux virus par jour
oui,
dans le monde.
Oui, c'est ça aussi.
Merci Elena, Amélia, Matar, à vous. Avec un premier moment que vous avez accepté de partager avec nous, vous vivez alors à Bondy, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, où on vous a conseillé de faire une école de commerce en alternance, école pas très bonne, on va dire ça. Oui. Et un jour, vous êtes en stage et vous réalisez que si vous voulez sortir du chemin peu ambitieux tracé pour vous, il va falloir procéder autrement.
Oui, effectivement, je me retrouve en alternance donc dans cette école et voilà au sein d'une entreprise qui recrute et au sein d'un service RH notamment. Et j'ai accès un peu par hasard à la liste des écoles dans laquelle cette entreprise, qui est une grande entreprise tech, recrute.
Recrute pour de vrai et pas seulement en alternance, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, absolument, recrute voilà, des postes salariés. Et je m'aperçois que l'école dans laquelle je suis scolarisée n'est pas du tout classée. Et là, je prends conscience en fait qu'il y a un classement des écoles en France. Voilà. Quelque chose qui est tout à fait évident pour pas mal de monde, mais moi à l'époque j'en avais pas du tout, cette information en fait qui est quand même très importante voilà, quand on veut avoir de la perspective et quand on veut se projeter. Du coup je prends la décision d'essayer d'entrer dans une de ces écoles en me disant bon bah très bien, il y a un classement, c'est pas pour rien. En faisant quelques recherches complémentaires, je m'aperçois qu'effectivement la plupart des entreprises un petit peu intéressantes s'orientent vers ces écoles spécifiquement et voilà, je commence à déblayer le chemin pour identifier quel pourrait être le parcours qui m'amène jusqu'à l'une de ces écoles.
Et c'était très conscient pour vous, hein. C'était ok, celle-là, ça ne va pas me mener très loin, je vais choisir une école qui est dans le classement, du coup vous passez les concours et là ?
Oui, il y a un concours notamment qui est ouvert aux élèves qui ne sont pas scolarisés en prépa, qui est le concours passerelle, donc qui est ouvert à tous les... à l'époque on disait Bac plus 2, maintenant on dit autre chose, je ne sais plus comment on dit. Mais... Donc voilà, je passe le concours passerelle et je réussis à être qualifiée pour l'oral pour toutes les écoles du concours.
Vous imaginiez à peine être prise dans une de ces écoles et vous êtes prise partout.
Oui, alors pour moi c'est vraiment une surprise. Vraiment, je me dis même qu'ils ont dû se tromper et qu'ils ont dû confondre avec quelqu'un d'autre. Et non, c'était bien moi. Alors j'ai eu la chance de passer ce concours avec la spécialité lettres et effectivement, c'était une matière que j'aimais beaucoup et je pense que ça m'a du coup permis effectivement d'accéder à ces écoles.
Vous faites du coup l'ESC Grenoble, la meilleure de toutes ces écoles.
Oui.
Et en même temps, toutes les portes s'ouvrent, c'est-à-dire que vous rencontrez votre mari.
Absolument, un peu par hasard, je le connaissais depuis quelques années, mais de loin, et puis je le contacte sur MSN en pensant parler à quelqu'un d'autre. Voilà, cet hasard a fait qu'on a renoué et qu'on s'est effectivement rapproché à ce moment-là.
Et comme quoi, quand on sort du chemin tracé pour nous, parfois, tout peut s'ouvrir, toutes les portes peuvent s'ouvrir en même temps, professionnelles et personnelles. C'est vraiment ce qui vous est arrivé.
Oui, tout à fait, effectivement.
Et vous arrivez à l'ESC Grenoble, et là, c'est un choc, vous m'avez dit. Pourquoi ?
Oui, c'est un choc parce que clairement, j'arrive dans un milieu social qui n'est pas le mien, qui n'est pas mon milieu d'origine, avec des codes, avec des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Enfin, c'est un l'ESC Grenoble, si vous avez l'occasion de la visiter, c'est une école qui est très belle, avec un bâtiment qui est impressionnant, une bibliothèque qui est magnifique. Enfin, et moi, je débarque là-dedans et je suis à la fois hyper fière, mais aussi très impressionnée et un petit peu mal à l'aise.
Quand vous dites pas les codes, par exemple, c'était quoi ?
Par exemple, je me sens... complètement plouc au niveau vestimentaire.
Ouais, moi aussi, ça m'arrivait ça, en arrivant à Paris.
Mais voilà, ça peut paraître complètement anodin et pas important, mais l'apparence, ça renseigne sur qui on est, d'où on vient. Donc voilà, on a envie ou pas envie de montrer ça aux autres, quoi.
Arrive le deuxième jour où votre vie bascule. Vous avez toujours eu envie d'entreprendre. Vous avez été responsable du digital chez Greenpeace, puis vous travaillez dans le monde des startups, notamment en tant que directrice marketing de Nouma. C'est même là où je vous ai rencontrée pour la première fois. Oui. Et vous décidez de créer Colori, votre entreprise, pour proposer des ateliers d'initiation au codage sans écran pour les enfants dès 3 ans. Vous avez l'idée, vous avez quelques slides, mais encore rien vraiment de concret, c'est
oui,
ça
oui.
Et un coup de pouce incroyable suivi d'un deuxième va tout transformer.
Oui, effectivement, je pitch, comme on dit, mon idée à Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon. Donc Simplon qui est une école pour devenir développeur, qui accepte dans son parcours tous les candidats indépendamment de là où ils viennent. C'est une école qui est très inclusive, qui permet du coup de se former à ses métiers.
Et un entrepreneur social qui est fantastique.
Oui, absolument. Un entrepreneur social hyper, hyper inspirant. Et donc, je lui explique mon idée. Il me dit, écoute, c'est génial. Voilà les clés de Simplon. Organise tes premiers ateliers pour voir si ça marche.
Donc, les clés de l'école.
Donc, l'école dans le 20e, qui est une école qui accueille tous les jours des adultes qui se forment au métier de l'ingénierie, qui se forment à devenir développeurs. Et il me dit, sur le temps où il n'y a pas d'adultes, occupe ce temps pour tester tes premiers ateliers.
Donc vous avez un local,
voilà.
Vous y allez le week-end?
J'y vais le week-end avec des tables et des chaises pour enfants. J'enlève toutes les tables et les chaises pour adultes. Je nettoie, je clean. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour que ce local pour adultes se transforme en un local qui est quand même adapté à des tout petits enfants. Et je lance donc les premiers ateliers. Ouais.
Donc vous lancez les premiers ateliers. Comment vous faites connaître?
Eh bien, effectivement, deuxième coup de pouce assez inattendu. Donc je programme un certain nombre d'ateliers tout à fait expérimentaux, parce que ça ne se fait nulle part en fait de proposer ce type d'apprentissage à des enfants si jeunes. Et là, My Little Paris prend connaissance de ce projet et fait une newsletter dédiée qui est vraiment une exposition médiatique énorme, et les ateliers se remplissent en un quart d'heure, quoi, vraiment.
Parce que My Little Paris, c'est des millions d'abonnés, non?
Oui, je ne sais plus exactement le chiffre.
Des centaines de milliers, c'est gigantesque,
énorme,
dirigée par Céline Orjubin, elle aussi
Une
entrepreneur très inspirante.
Oui.
Et donc, vous vous êtes trouvé sur le chemin de deux entrepreneurs qui vous ont à nouveau aidé, fait un coup de pouce, et du coup Colori s'est lancé. Premier atelier, ça s'est passé comment?
Premier atelier, déjà je me suis demandé si les gens allaient venir. Jusqu'à l'arrivée du premier enfant, j'étais très stressée et très angoissée. Et puis finalement, tous les inscrits étaient bien présents et ça s'est très très bien passé. Tout le monde était super enthousiaste. Les enfants ont adoré et ça a été le début d'une très très longue série d'ateliers.
Et aujourd'hui, Colori a l'ambition d'accompagner 1 million d'enfants.
Oui, absolument.
Elena Poincé, Amélia Matard, vous avez plusieurs points communs. Une première vie riche d'agent secret pour vous, Elena, et dans l'humanitaire et le digital pour vous, Amélia, avant votre reconversion dans l'entrepreneuriat. Vous avez aussi l'envie très puissante, jeune, d'évoluer vers le plus haut niveau et de construire en étant utile. Et vous avez également une appétence très forte pour la tech, un domaine encore très masculin et que vous transformez toutes les deux avec brio. Leader mondial pour Elena, avec une croissance très forte, on l'a dit. Et pour vous, Amélia, vous avez réussi à combiner Maria Montessori et algorithme. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. On commence par vos vies avant l'entrepreneuriat, parce que tout mène à l'entrepreneuriat. Vous en êtes l'exemple toutes les deux. Elena Poincé, je sais que vous n'avez pas trop le droit de parler de vos missions ni de votre vie d'agent secret, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que forcément, ça intrigue, ça fait rêver. Est-ce que la réalité ressemble au film? Et comment on devient agent secret?
Alors, je suis vendéenne. Je viens d'un tout petit village, d'un lieu dit. Et je fais effectivement mon bac scientifique. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors. Donc, je me suis engagée, puisque effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'armée française a ouvert ses écoles à la mixité. Donc, je me suis engagée. Je suis partie en Allemagne pendant 7 ans dans un régiment d'artillerie. Et là, j'étais spécialiste transmission. Donc, on apprenait tout ce qui était réseau, tout ce qui était informatique. Enfin, le début, quoi. Et puis, j'ai fait ça. J'ai évolué aussi à l'intérieur de mon régiment, seule femme. femme, 1986, donc il fallait bien sûr montrer l'exemple, il fallait en faire 2-3 fois plus que les hommes, et même si on en faisait 2-3 fois plus, c'était l'homme qui était choisi. Donc il faut avaler tout ça, et il faut aussi toujours penser plus loin. Et moi, je me disais, alors bien sûr il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior en 1985, etc., mais j'avais cette envie de faire partie des forces d'élite. Et dès le départ, dès 1989, je faisais ma demande pour aller au service action de la DGSE, parce que pour moi, c'était le plus important d'aller... voilà, de toute façon, c'est toujours important d'aller toujours plus haut, de quoi qu'il arrive.
Mais pour
vous,
c'était hyper important.
C'était hyper important, donc j'ai jamais lâché ça. Donc après, j'ai fait une autre mutation, puisque le but, c'était pas de refaire la même chose dans un autre régiment. Pour moi, c'était hors de question, il faut toujours évoluer.
Donc vous les avez harcelés pour aller à la DGSE?
Voilà, c'est ça. En fait, oui, et un jour, j'ai pris ma carte téléphonique, cabine téléphonique, le numéro de téléphone du recruteur, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà, je suis Elena Poincé, j'étais adjudant à l'époque, je suis adjudant, je suis mariée, j'ai un enfant, et je voudrais venir au service action de la DGSE, comment fait-on? Et donc là, à partir de ce moment-là, je ne vais pas dire que toutes les portes sont ouvertes, ce n'est pas ça, parce qu'il faut passer des tests, il faut devenir parachutiste, aller faire ses sauts à Pau dans l'école des troupes aéroportées des armées. Et puis après, on commence et je reçois une lettre qui me dit, ben, c'est bon, vous allez arriver au service action de la DGSE, et puis on me donne rendez-vous. Hein, voilà, prenez un sac pour 6 ou 7 semaines, je ne me souviens plus. Et puis, on attend devant le portail. Je vois mes futurs collègues qui étaient là aussi avec moi. Et en fait, on était 5 dans notre promotion. Et puis, on a démarré comme ça par un premier stage. Et je suis revenue au bout de le samedi matin. On était rentré de ce premier stage. Et puis, le lundi, on partait sur un nouveau stage. On ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne savait pas si on allait revenir. Et puis, comme ça, à chaque stage, pour faire une formation d'agents pour justement pouvoir faire après des missions clandestines. Et du coup, cette formation a duré jusqu'à mi-juillet de l'année d'après. Et voilà, il faut réussir tous ces stages parce que sinon, on est viré. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Et toujours l'envie d'aller plus haut jusqu'à après faire de nombreuses missions, et puis cette bascule quand j'ai rencontré Laurent.
Et vous m'avez dit en préparant ce podcast que c'était la première fois que vous mettiez un habit civil pour aller au travail.
Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est vrai parce que, bon, quand on est dans l'armée traditionnelle, on est en treillis, donc en treillis ou tenue de cérémonie. Et effectivement, là, d'un seul coup, on passait en civil, quoi, puisqu'on travaille en civil, et on s'entraîne en France. Et du coup, c'est vrai que c'est une bascule qui est énorme. Parce que déjà, on travaille, on est tout seul. Donc, il faut s'habituer à être seul. Il faut s'habituer à manger au restaurant seul. Il faut s'habituer à avoir confiance en permanence. Donc, c'est vraiment une vie très particulière. Mais à l'intérieur, quand même, il y a une forte... Vous voyez, je suis partie depuis 12 ans maintenant. Je téléphone à des anciens collègues. C'est comme si je ne les avais jamais quittés, en fait. Donc, il y a une vraie fraternité entre nous.
Amélia Matar, vous, votre vie d'avant, ça a été notamment dans l'humanitaire à Mexico. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Et puis dans le digital.
Oui, alors je me permets juste de rebondir parce qu'il y a un élément de ma vie dont je ne vous ai pas parlé, mais qui résonne très fortement avec ce que vous racontez.
Vous étiez agent secret.
Non, je n'étais pas agent secret, mais ma grand-mère était une des premières femmes noires militaires qui s'est engagée dans la dissidence en 1944.
Énorme.
Voilà. Et c'est une figure extrêmement importante pour moi. Oui, j'aurais pu vous en parler, effectivement.
Non, je trouve ça génial, c'est qu'à chaque fois, il y a une sororité entre les parcours, il y a toujours des choses qui se passent, comme quoi on a tout le temps des points communs extraordinaires.
Oui, et du coup, j'ai été bercée par ces récits, vraiment. Et voilà, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un courage incroyable, donc qui a commencé en 44, et puis après qui a fait l'Algérie, l'Indochine. Enfin voilà, donc toute mon enfance est aussi nourrie de ces récits de femmes militaires, alors pas genre secret, mais elle était en transmission à un moment. Donc voilà, effectivement, des parcours qui très certainement m'ont inspirée, peut-être un conscience. Consciemment ou voilà.
Oui, parce qu'il faut s'engager.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est un engagement, très clairement. Ouais. Et l'humanitaire, effectivement, donc via mon école de commerce, j'étais engagée dans l'association humanitaire de l'école, et notamment sur un projet qui visait à accompagner des enfants des rues de Mexico. Donc pendant un an, avec toute l'équipe, on a notamment collecté des fonds, voilà, comme le font pas mal de projets étudiants. Et puis, on s'est ensuite rendu sur place à Mexico, et on a passé 2 mois au sein d'une fondation pour enfants des rues, qui accueille les enfants qui étaient virés des autres fondations, donc un contexte...
Vous en avertirez quoi ?
Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à la fois, effectivement, les conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles grandissaient ces enfants, mais d'extrême pauvreté affective, en fait, c'était surtout ça qui manquait énormément à ces enfants, et j'ai pris conscience à quel point les premières années d'une vie sont précieuses, et à quel point ça peut être très néfaste de manquer de choses essentielles à ces âges-là, quoi. Et quand je dis essentiel, il y a effectivement le côté matériel, mais il y a le côté... affectif qui importe encore plus, quoi.
Avec l'envie d'aider aussi, peut-être, c'est ça qui vous a mené ensuite vers Colori, peut-être vers l'éducation, ou tout ça fait partie des briques, peut-être.
C'était clairement, une des graines, où j'ai senti que le sujet d'éducation était un sujet majeur. Ouais.
Et après, toute une période dans le digital.
Oui, absolument. D'ailleurs, un de mes premiers emplois était chez Bitdefender. Encore un
concurrent.
Un autre pont. C'était mon entrée dans la tech. Et ensuite, j'ai travaillé effectivement plusieurs années chez Greenpeace, au digital. Puis Numa, directrice marketing. Et donc là, baignée dans l'écosystème entrepreneurial parisien. C'était les premières effervescences start-up parisiennes, quoi.
Et vous saviez qu'un jour, vous alliez entreprendre ?
Ah oui, clairement. Oui. Depuis que je suis sortie de l'école, c'était vraiment ancré en moi. Je pitchais sans arrêt des projets. Certains ont été très documentés. J'ai fait des business plans divers et variés.
J'avais comme vraiment quoi, cette par envie.
Alors, comme un réseau de franchises de pizzeria bio, une franchise de crèche avec une approche pédagogique un peu très innovante de prise en charge de l'enfant. Et puis voilà, finalement, c'est Colori qui a pris forme.
Qui est né. Et vous ne faites pas que ça, hein, parce que souvent, on a l'impression qu'entrepreneur, on ne peut être qu'entrepreneur, vous faites plein d'autres choses autour, mais qui a bien sûr trait à l'éducation, qui ont trait à l'éducation, comme chroniqueuse télé, vous faites des jeux de société avec votre complice la scientifique Aurélie Jean. Vous faites aussi, vous êtes autrice et avec un premier roman qui paraît bientôt.
Oui, absolument. Souvent on entend dans les conseils donnés aux entrepreneurs d'être très focus. Alors j'ai toujours une petite pointe de culpabilité quand j'accepte un projet, mais moi, enfin, j'ai besoin de me nourrir de plein d'univers différents. Et finalement, il y a des points de convergence évidents entre toutes ces initiatives. Et là, par exemple, en ce moment, je produis un court métrage pour sensibiliser les jeunes filles au métier scientifique. Donc tout ça évidemment est très, à la fois très différent, mais à la fois sert une même cause.
Dans le même ADN.
Oui.
Alors deuxième point commun entre vous, c'est votre appétence pour la tech, qui est un domaine encore très masculin, dans lequel vous innovez toutes les deux. L'appétence pour la technologie, Amélia, ça vous vient d'où ?
Alors ça me vient de mon papa, qui était technicien dans un grand groupe qui proposait des contrats de confiance, je ne vais pas le nommer. Et ensemble, on désossait des machines quand j'étais petite, des magnétoscopes, des télévisions, puis plus tard des ordinateurs. Et j'ai plein de souvenirs de moi qui faisait des soudures pour réparer les télévisions qui étaient confiées à mon père. Je pense que j'ai gardé cet attrait très fort pour tout ce qui est tech. Et c'est des années plus tard que ça a donné une vocation. J'ai mis longtemps à vraiment comprendre quel métier m'attirait vraiment. Et je passais beaucoup de temps dans l'atelier de mon père, ça a créé une évidence plus tard, quoi.
Oui, en fait, c'était plus un mystère pour vous.
Non, en revanche, c'est vrai que ça m'a pris un certain temps d'assembler toutes les briques et de comprendre que c'était ces métiers-là qui allaient me plaire.
Et vous, Elena, de ce que j'ai compris, du coup, vous avez commencé à mettre les doigts dans la technologie quand vous étiez à l'armée. Vous avez dit que vous étiez au balbutiement des réseaux.
C'est ça.
Avec cette envie très forte pour vous, à travers la tech, de servir votre pays, d'abord dans l'armée. Et aujourd'hui, en faveur d'une cyberpaix, en tout cas pour essayer d'aller vers une cyberpaix qui paraît assez lointaine quand même, parce qu'on voit bien qu'on est au début de tout ça.
Exactement, notre engagement avec Laurent justement et avec Tetris, notre société, c'est ça. Nous avons annoncé la semaine dernière que nous sommes devenus une société à mission. Donc pour nous, c'est ça, c'est la raison d'être de Tetris et de protéger le cyberespace pour qu'il devienne le plus sûr possible et puis pour tout le monde, quoi, parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Internet et tous les systèmes numériques ont mis le monde à plat. Donc, ça a permis à tout le monde de se voir, d'apporter de l'information incroyable qui permet justement à tout le monde d'évoluer et d'aller dans le bon sens. Et donc, si face à ça, on se fait pirater tout, en permanence tous les systèmes, ça ne peut pas continuer, quoi. On ne peut pas avoir une société et puis se dire, eh bien, un jour, peut-être qu'un pirate, parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a besoin de faire mal, eh bien, peut mettre à plat ma société. C'est pas possible.
Ou le gouvernement, ou un hôpital.
Voilà, un gouvernement, un hôpital, une collectivité, enfin, tout ce qui peut servir justement à améliorer la société.
Ce qui est étonnant chez vous, et porteur d'espoir, je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes.
Effectivement, à Tetris, on a plus de je sais plus exactement, 32 ou 33% de femmes. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas volontaire au
Et qui est
départ.
Beaucoup hein, par rapport à vos concurrents.
Ah oui, oui.
Voilà. Dans le milieu de la
normalement,
tech.
Normalement, je crois, au niveau de la cyber, je crois qu'on est à 5% et puis 11% dans le numérique. Et effectivement, il y a une forte volonté aussi du personnel féminin à venir et même du personnel masculin que nous recrutons. C'est-à-dire que, eh bien, comme beaucoup de jeunes le souhaitent, c'est avoir un métier qui a du sens. C'est-à-dire que là, nous, on n'est pas dans du conseil, je vous conseille de faire ci, je vous conseille de faire ça. On est dans, on fait les choses. On fait les choses pour améliorer, on fait les choses pour avancer. Et du coup, ça donne un pouvoir d'action à chacun d'entre nous, chacun dans son domaine. Et c'est ça qui fait la force de Tetris à l'heure d'aujourd'hui. Et on embarque derrière nous, avec Laurent et avec même Marie et Ingrid qui font partie de notre COMEX, puisqu'on a un COMEX à 75% féminin. Et du coup, on embarque tout ce monde avec nous parce qu'on va réussir. On est en train de construire cette société qui est gigantesque et puis qui a une technologie extraordinaire. Et puis, je remercie encore tous les ingénieurs et tous les tétriciens et les tétriciennes qui nous écoutent. Mais voilà, et on va devenir un géant parce qu'il y a une très, très, très forte volonté et un très fort besoin aussi.
Et beaucoup de sens. Et le pouvoir d'action dont parlait Elena, ça doit vous parler, Amélia.
Oui, et c'est rigolo. Autre parallèle, nous, on est en train de demander l'obtention ESUS, qui est un agrément qui, effectivement, valide le fait que l'entreprise agit avec une mission très forte et voilà, porteuse de sens, quoi.
Et pour vous aussi, améliorer la diversité dans la tech, ça fait partie de vos objectifs, notamment à travers un conte que vous racontez aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors ce qu'on observe aujourd'hui, le constat qu'on fait de la tech, c'est qu'effectivement, il y a un déficit de femmes qui est énorme. Alors on pourrait se dire que c'est pas très grave, mais en fait, si, ça l'est à plusieurs titres. Déjà parce qu'il y a un besoin énorme de nouveaux candidats et donc en ayant si peu de femmes, on se prive d'un vivier énorme de potentiels ingénieurs, eux. C'est aussi hyper important parce que la tech est en train de vraiment façonner complètement notre civilisation, hein. Notre monde et qu'aujourd'hui les produits tech sont conçus principalement par des hommes, donc voilà, ça pose quand même question. Et donc nous, ce qu'on observe à la fois de la réalité du terrain mais aussi des études scientifiques, c'est que plus on parle du sujet tech tôt aux filles, plus elles ont des chances de s'orienter vers ces métiers qui en plus sont des métiers très émancipateurs d'un point de vue économique, et on sait que l'indépendance économique c'est un sujet pour les femmes. Et donc du coup on a mis effectivement, enfin on a écrit ce conte qui met en scène un petit garçon et une petite fille qui vivent plein d'aventures autour de la tech, et on voit que la petite fille comme le petit garçon ont la même aisance vis-à-vis du sujet, évidemment. Et c'est aussi ce qu'on observe dans nos ateliers. Les petites filles ne sont pas encore freinées par un déterminisme lié au fait qu'elles soient des petites filles. Elles s'éclatent autant que les petits garçons dans nos ateliers, quoi.
Et alors, on parlait du pouvoir d'action qui est très cher à Maria Montessori, et vous avez réussi à allier Montessori et la tech. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Maria Montessori ? Quel rôle elle joue dans Coloris ?
Oui, alors Maria Montessori, elle est connue comme l'une, peut-être même la première femme médecin d'Italie, qui effectivement a observé de très près le fonctionnement de l'enfant et en a déduit des lois de développement de l'enfant. Et donc, à partir de ces invariants pédagogiques, c'est comme ça qu'elle appelle ça, elle a construit toute une approche pédagogique qui permet de faire grandir l'enfant, j'allais dire, de faire école à l'enfant, mais c'est bien plus que ça pour elle. Elle conçoit l'éducation comme une aide à la vie, c'est vraiment ça son combat. D'ailleurs, son vrai combat, c'est de faire de l'éducation un instrument de paix. paix entre les hommes. Hein. Elle avait vraiment cette vision de l'éducation comme un vrai levier de paix. Et nous, ce qu'on a été faire, tout simplement, c'est comme elle a proposé un certain nombre d'activités pour les mathématiques, le français, la géographie.
C'était il y a plus de 100 ans. Hein.
C'était il y a plus de 100 ans, oui, la première école.
Donc il n'y avait pas encore de code de programmation d'algorithme.
Non, première école Montessori 1907 dans le quartier de San Lorenzo à Rome. Et donc on a été observer de près la façon dont elle a conçu tout ce matériel et on a étendu humblement tous ces principes à la tech.
Avec une chercheuse au MIT.
Oui, on s'est rapproché effectivement de Kimberly Smith qui a fait une thèse au MIT Media Lab, qui a notamment vu aussi la naissance de Scratch, le logiciel qui est utilisé aujourd'hui par des millions d'enfants pour s'initier au code, la programmation. Et donc Kimberly Smith a fait effectivement toute une thèse sur comment on applique les principes Montessori à l'apprentissage de l'informatique. Et donc on a effectivement collaboré sur plusieurs aspects. On a aussi ensemble écrit un coffret qui est publié aux éditions Erol. Voilà, on collabore, on s'inspire l'une l'autre sur nos différents projets.
Vous avez des concurrents dans le monde aujourd'hui ou pas encore, Amélia ?
Alors, il y a plusieurs initiatives qui existent. Concurrentes, je ne sais pas, parce que nous, notre approche, elle est quand même très spécifique d'un point de vue économique. Notre modèle économique, c'est vraiment de travailler avec les villes de manière à ce que tous les enfants, indépendamment de leurs milieux sociaux, de leur zone d'habitation aussi, on s'adresse aussi aux zones rurales, tous les enfants puissent avoir accès à Colori. Donc oui, il y a des initiatives concurrentes, mais avec des marchés différents.
Et en plus, trouver un modèle économique pour Colori, ça ne devait pas être simple au démarrage. Hein. Trouver une façon d'être scalable, parce que vous, Elena, on voit bien la scalabilité, et puis vous allez nous en parler juste après de cette croissance qui est très forte. Mais vous, Elena, au démarrage, un atelier chez Simplon, vous dites comment je peux être scalable, c'est-à-dire reproduire ça à grande échelle et avoir un modèle économique qui tienne la route.
Oui, premier enjeu, avoir un modèle économique effectivement qui tienne la route.
Vous y avez pensé dès le début ou pas du tout ?
On a exploré plein de pistes différentes, mais au-delà du modèle économique, c'était aussi, encore une fois, comment faire pour que tous les enfants puissent y avoir accès. Parce qu'on sait aujourd'hui, le numérique est un facteur d'inégalité très forte. On observe des usages très contrastés selon les catégories socio-professionnelles. Et nous, on avait envie de faire du numérique une opportunité pour tous les enfants. Alors donc, on a testé plein de marchés différents. Et c'est un peu un hasard d'avoir trouvé ce modèle économique-là. C'est une collectivité qui a eu vent de ce qu'on faisait et qui nous a interpellés, nous a dit, on a des équipes d'animation, on a des centre de loisirs, former nos équipes, vendez-nous le matériel et on déploie Colori dans notre ville. Et là, on s'est dit, très bien, il y a 36 000 villes en France. On va faire pareil, fois 36 000.
Et donc, le modèle économique était trouvé.
Voilà.
Elena Poincé, quand on a échangé ensemble, vous m'avez dit que dès le démarrage, vous vouliez être dans l'élite, donc la DGSE, et maintenant avec Tetris, leader mondial. Vous l'avez dit, vous avez doublé votre chiffre d'affaires chaque année. Vous avez une croissance qui est immense en nombre de collaborateurs. En 2020, vous étiez 60. Aujourd'hui, vous êtes 230, on mesure bien du coup la croissance qui est très forte. Comment vous faites pour gérer cette croissance forte et cette ambition forte en même temps ?
C'est extrêmement rude. C'est extrêmement rude, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est vrai qu'avec Laurent, on est des combattants, donc quelque part, on pense pas à la douleur. Il faut pas y penser en tant que chef d'entreprise. Hein. Mais c'est vrai que on embarque les équipes. Effectivement, on a des clients, des partenaires. Il faut le recrutement. Il faut quelquefois, on se retrouve avec plusieurs casquettes sur la tête parce qu'on est dans la phase de scale-up, dans la phase de construction en permanence. De ce passage à l'échelle qui est extrêmement violent, plus les concurrents qui nous tapent dessus parce que ils sont petits, vous pouvez pas leur faire confiance, etc., etc. Donc on est face à tout ça, mais pas de problème, on a un objectif, une mission et on va aller jusqu'au bout justement pour faire sortir ce géant de terre, parce que c'est ça en fait, être entrepreneur, c'est peut-être le métier le plus dur, parce que quand on est sorti avec Laurent de la DGSE, là, on est sorti avec la fleur au bout du fusil. On s'est dit, c'est super, mais en fait, on ne connaissait rien. On savait même pas faire un devis, quoi. On ne savait rien faire. Donc, on a tout appris. On apprend encore tous les jours. Et maintenant, là, on part sur une série B. Là, on a ouvert une filiale en Espagne. On a nos premiers Espagnols qui arrivent lundi prochain au sein de Tetris. On a ouvert une filiale en Allemagne. On ouvre une filiale au Canada, à Singapour, parce qu'on doit construire tout un support éditeur au niveau mondial. Donc, on fait tout ça. Donc, on porte tout ça avec un engagement permanent, quoi, en fait. On peut pas s'arrêter, en fait. On est obligé de... On vit ça, en fait, on n'a plus de vie personnelle avec Laurent. Tout est devenu professionnel. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement.
Et en quoi votre vie d'avant vous a aidé, apporté à cette vie d'entrepreneur ?
Alors bon, déjà, moi, j'ai toujours aimé organiser. J'ai toujours aimé optimiser. J'ai toujours aimé construire les choses, faire des choses qui ont du sens, quoi. Encore une fois, je me lève le matin parce que je vais servir à quelque chose. Sinon, je ne me lève pas, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Je me bouge si il y a vraiment du sens à faire les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, jouer, je n'aime pas ça, en fait. J'aime pas jouer. Donc, je fais des choses pour que ça apporte quelque chose à la communauté.
Mais on dirait que la peur est absente.
Ah oui, non, je n'ai pas du tout peur. Hein. La seule peur que j'ai, à la limite, c'est de mourir, quoi. Donc, mais c'est tout. Mais j'ai peur de quoi, en fait, au final ? On est quand même dans un pays qui nous offre tout. On est au chaud, on a à manger, tout va bien. Voilà, il faut y aller. On ne peut pas s'arrêter à ça. Là, nous, on est dans un chemin qui est trop intéressant aussi, trop excitant. Voilà. Mais c'est rude.
Et vous, Amélia, la peur ?
Non, je ne crois pas non plus avoir tellement peur. Un peu pour les mêmes raisons. C'est vrai que je suis assez philosophe. Qu'en fait, chaque petite victoire me paraît hyper énorme, quoi. Enfin, je suis toujours en train de me réjouir de tout parce que, bah, quelque part, c'est aussi parce que je me souviens d'où je viens, en fait. Et en fait, à chaque nouvelle marche que je monte, je me dis, mais waouh! Enfin, je me retourne et je me dis, c'est trop bien. Bon, bah, il en reste encore d'autres à monter. Allons-y gaiement. Enfin, la peur, non, c'est pas quelque chose que je ressens. Mais effectivement, j'ai souvent, quand il y a un petit peu d'enjeu, j'ai une phrase que un de mes premiers chefs m'avait dite et qui m'anime encore beaucoup, c'est et au pire quoi? Et au pire quoi? Voilà.
Non, mais c'est ça. Et l'histoire des marches, nous, c'est exactement ce qu'on dit. On parle de marche ou de fusée. On dit on est dans une fusée qui va décoller et le moteur chauffe. Ou alors on dit il faut construire la première marche et puis après, tu construis la deuxième. Mais en tous les cas, dans l'entrepreneuriat, l'ascenseur n'existe pas. On est obligé d'aller pas par pas, marche par marche, etc. Et c'est vrai que quand on se retrouve salarié dans un grand groupe, enfin moi je ne l'ai jamais vécu, mais j'étais quand même au service public et au sein du ministère des Armées, mais quelquefois j'entends certaines personnes qui sont dans une collectivité, on a démarré comme une start-up. Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas démarré comme une start-up. À partir du moment où tu as un salaire qui tombe régulièrement, tu ne peux pas dire que tu connais l'esprit start-up. Parce que ça aussi, ça se fait bouger, quoi. Parce qu'on est obligé de se bouger.
Oui, absolument. L'esprit start-up, c'est vraiment...
C'est comment au démarrage, Amélia ?
C'est casse-gueule, quoi.
Ah bah ouais, mais c'est sûr. Hein. Moi, je me souviens une fois avec Laurent, au tout début, les deux premières années, on ne s'est pas versé de salaire. Hein. On donne tout à son entreprise. Tout.
Oui, bah, pareil, effectivement. Enfin, et encore aujourd'hui, je passe la dernière, quoi.
Après les 5 autres salariés.
Enfin oui, j'ai aussi une cofondatrice qui fait voilà, aussi de gros sacrifices, mais ce sont de gros sacrifices. Après moi, très franchement, oui, ce sont de gros sacrifices et voilà, je suis pas du tout dans une dynamique ni d'enrichissement, ni de régularité de salaire, etc., ni de sécurité de salaire, mais je considère que j'entreprends dans de très bonnes conditions quand même, parce que voilà, j'ai des conditions personnelles qui me permettent quand même d'entreprendre. Je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça, quoi.
Et vous avez toutes les deux, je l'ai dit tout à l'heure, vous venez d'un milieu peu favorisé l'une comme l'autre, et toutes les deux, vous avez cette ambition dès le démarrage d'aller le plus loin possible.
Ah, mais je suis complètement d'accord.
Enfin, je pense que c'est tout le monde, mais chez vous, ça semble très chevillé.
Alors, moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis née en 65, mais je sais que moi, j'avais deux paires de chaussures. Hein, une paire de brodequins pour l'hiver et puis une paire de sandalettes pour l'été. Donc, je sais d'où je viens et donc, il faut effectivement progresser, quoi. Ou sinon, on reste comme on est. Mais après, chacun a ses ambitions et moi, il était hors de question que je vive comme ça toute ma vie. Donc, progresser, ça fait partie de moi depuis toujours, quoi. Donc, le chemin est important. L'objectif aussi est important parce que bien souvent on dit, c'est pas, l'objectif n'est pas important, c'est le chemin. Je pense que s'il y a les deux, c'est parfait, quoi.
C'est non, sûr.
Ah oui, parce que sinon, il y a quand même, sinon, une petite déception. On peut pas le nier.
Me concernant, quand on parle d'éducation, on est obligé d'avoir une très forte ambition parce que si on considère l'éducation comme un levier de changement majeur de notre société, bon, bah, ça veut dire qu'il faut s'adresser à un maximum d'enfants si on veut que voilà, cette action soit efficace d'un point de vue sociétal, quoi. Donc, voilà.
Vos ambitions à chacune. Géant européen pour Elena Poincé. 1 million d'enfants pour Amélia Matard, d'ici 5 ans. ça me plaît bien. On va passer au portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Elena ou la Amélia de 20 ans vous dirait à vous d'aujourd'hui ?
Moi, je dirais d'aller plus vite.
Moi, je crois qu'elle serait quand même assez contente. Hein. Elle dirait « pas mal, meuf
». Ce qui vous ressource ?
L'horizon, voilà. Moi, j'adore justement être à Bordeaux et de partir. Allez, on est à 35 minutes de l'océan et donc voir l'horizon.
Méditer.
Vous méditez tous les jours, Amélia, c'est ça ?
Ouais, depuis 6 ans. Ça a transformé ma vie.
Comment ?
Ça m'a rendue beaucoup plus efficace, beaucoup plus présente, beaucoup plus en maîtrise de mes émotions, en maîtrise de... Enfin, il y a un avant et un après le début de la méditation dans ma vie.
La discipline qui vous sauve, donc vous avez répondu en partie, Amélia, j'imagine, c'est ça ?
Oui, bon, je pourrais dire aussi le sport, l'écriture.
Oui, moi j'ai toujours fait du sport, depuis toujours. J'aime bien une vie, la vie très équilibrée. Je ne bois pas, manger régulièrement, bien dormir, un équilibre de vie, comme ça me va très bien. Ouais.
Et vous faites des marathons ?
Alors, j'ai fait des marathons, mais là, j'ai vraiment plus le temps parce que ça demande beaucoup d'entraînement.
À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneuriat ?
Bon, j'ai l'impression de devoir rien renoncer, en fait. Je fais ce qui me semble bien, quoi. Je peux travailler le dimanche, le samedi, ça me pose pas de problème, quoi.
Au mondanité, j'ai pas le temps, parce que voilà, c'est 2 enfants en bas âge en plus, non.
Qu'avez-vous accepté de la vie ?
D'être vivante et puis de faire ce qui me plaît et d'avancer d'avoir mes intuitions, etc. Donc
que la vie est un chemin, en fait. Ça s'arrête jamais. C'est un chemin continu.
Votre mantra ?
Qui ose gagne.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Merci Amélia Matar, merci Elena Poincet. Bravo à toutes les deux pour vos Bold Awards. Elena dans la catégorie Bold Woman et Amélia Bold Future. Je souhaite dédier ce podcast à 2 hommes. Guillaume Richard, qui a reçu à vos côtés le prix de Bold Champion. Guillaume est aussi président de WeCare, 18 000 salariés dans le service à domicile et très engagé en faveur de l'égalité. C'est pour ça que je le cite, notamment parce qu'il soutient aussi activement Bouge ta boîte depuis le tout début. Et ce podcast est aussi en la mémoire de Laurent Vimon, président de Century 21 et grand allié de l'égalité, qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines. Et vous êtes nombreux et nombreuses à connaître son engagement. 2 exemples qui montrent que l'égalité, ce n'est pas l'apanage des femmes, mais bien une responsabilité et une vigilance collective, qu'on soit femme ou homme. On est toutes et tous actrices et acteurs du changement. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Dimitri Meyer, Elisa Grenet et Marie Jaworski pour la réalisation. Merci à Zaya Cassel et à la team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.